chronique mutante.
Un magazine queer, punk, anarchiste et féministe.
Tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Panique 105.4.
Bonsoir,
salut,
hello.
Et vous écoutez Chronique Mutante comme presque tous les samedis de 18h à 19h. Et bah voilà, je vous laisse parler.
Moi cette semaine je suis allée au Hall de Skarik deux fois pour voir deux spectacles qui m'ont révoltée en même temps. Déçu, en même temps j'étais surprise, en même temps je suis là, oh, où est-ce que ça passe là, les sous de l'État?
Ah, tu vas nous en parler après, c'est ça?
Grave.
Et toi, Margot?
Moi j'ai pris deux bouquins avec moi, j'ai écrit deux petites chroniques en me disant que si on avait le temps, il y en aura une deuxième comme ça.
Cool.
Voilà, il y en a un, c'est Barge, de une personne qui s'appelle HK, on n'en sait pas plus, aux éditions du Chien Rouge. Oui, La vie têtue de Juliette Rousseau chez Cambourakis.
Ok, moi j'ai préparé une sélection musicale et de la revue de presse, comme d'hab. On écoute une chanson et après on commence. On va écouter Radical Kitten avec un extrait de leur nouvel album qui s'appelle Uppercut. Et la chanson là, Attendez, je vais vous dire non tout de suite, c'est Never On Time, c'est le premier morceau de l'album. Franchement, l'album, il est très bon. Je vous le conseille.
We'll be right back.
L'ordre se complète dans l'hétéronormalité.
Le désordre se complote partout ailleurs.
Eh ben moi, il me tarde que Radical Kitten repasse en concert à Bruxelles, franchement. Voilà.
C'est vrai que ça serait bien.
Ouais, bon, j'imagine.
Toujours un asthmique.
Bah non, ça m'étonnerait, l'année dernière, je sais pas si ils étaient passés au Recycler, on avait les boules, quoi. Et ils étaient passés à Nast parce qu'on les avait pris sur leur date off. Donc, du coup, non, j'imagine. Mais peut-être au magasin 4, ça serait top. Au magasin 4, franchement, ça ferait plaisir. Bref, et parce que le magasin 4 va rouvrir le mois prochain, hein. Voilà, peut-être vous en foutez, hein, mais moi je suis content. Les amateurs de rock, de metal, de black metal, de punk, de grind sont contents. Chronique littéraire.
Allez. Alors moi, j'attendais ce bouquin avec impatience. C'est un livre qui vient juste de sortir, qui s'appelle Barge, et c'est le journal en fait d'une jeune fille au moment du journal, qui en 2000 a fait une première bouffée délirante, puis deux à la suite, et qui a été plusieurs fois hospitalisée. En hôpital psychiatrique, et c'est son journal en fait, c'est un journal de délire en fait, et un journal d'HP, aussi un journal politique qui se passe dans les squats, à Berlin, à Auxonne, enfin voilà. Donc on suit, c'est super, hein, c'est vraiment assez fascinant comme document, parce que moi je pense que c'est plus un document qu'autre chose. On a vraiment accès à toute son intériorité, à tout ce qui se passe en elle à ce moment-là, et dans ces différents moments, puisque le journal est mis aussi en page des années après par l'autrice elle-même, qui réécrit des choses aussi pour contextualiser et qui ajoute d'autres documents aux documents de base et aux matériaux de base, qui sont notamment les lettres de ses proches qui ont été écrites à ce moment-là, et des documents de l'hôpital psychiatrique où qui font des sortes de diagnostics, on dit ce qu'elle prend comme médicament, tout ça. Donc il y a plein de choses qui vont comme ça nous montrer ce que cette personne traverse, tout en nous montrant les divers points de vue en fait de ce qu'elle est en train de vivre, parce qu'en même temps elle y a son journal et
veux dire les points de vue aussi des autres.
Oui, voilà, donc enfin là on est à l'intérieur d'elle, en même temps on va avoir une lettre d'une copine dans un squat qui lui écrit on a fait une réunion pour parler de la dernière fois quand on t'a viré du squat parce que il y a des personnes qui se sentaient pas safe, mais on essaie de faire mieux pour la prochaine fois. En même temps, il y a les infirmières de l'HP qui écrivent des comptes rendus en disant elle est arrivée, là elle avait du mal à parler, à faire une phrase cohérente, et puis là il y a de l'amélioration, et puis voilà, là elle essaie de faire du sexe avec tous les autres personnes qui de l'HP, enfin voilà. Donc c'est tout ça, c'est raconté, c'est assez étonnant parce que c'est aussi drôle, dans son délire il y a énormément de jeux de mots, parce que à ce moment-là elle faisait plein d'associations d'idées, elle entendait des voix en fait, elle faisait plein d'associations d'idées, donc dès qu'elle entendait un mot elle créait plein de jeux de mots, et il y a des choses qui sont vraiment très très bien vues, enfin très drôles. Il y a aussi des choses vraiment difficiles à comprendre même dans l'écriture. Voilà. Donc, je sais pas, peut-être que c'est bien de rappeler pour les auditeuristes, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de rappeler ce que c'est une bouffée délirante, peut-être, juste. Voilà, moi je suis pas du tout spécialiste, donc je suis allée sur Google pour, sachant que là on a vraiment un aperçu de ce que ça peut être. Mais en tout cas, c'est qualifié de trouble psychotique bref. Un épisode de délire survenant brusquement chez une personne qui peut ne jamais avoir eu de problème psychique. La personne concernée ne se rend pas toujours compte de son état délirant. Ça peut durer quelques jours à un mois. Ça peut être causé par des périodes critiques du chemin de vie, des chocs émotionnels, les consommations de drogue, notamment le cannabis, ce qui est le cas en tout cas pour l'autrice, les relations difficiles, et puis l'enfermement, le confinement, ça peut créer ça aussi. Voilà, et ça crée chez la personne des sensations de paranoïa, des idées de persécution, des discours incohérents, et pas mal d'hallucinations auditives sensorielles, des états de dépersonnalisation, enfin plein de choses. Et elle parle notamment du fait que elle est appelée à être un nouveau messie, et elle appelle toutes les personnes qui, comme elle, ont fait des bouffées délirantes et entendent des voix, les nouveaux messies ou les messies. Donc, et elle se marre un peu avec ça, parce qu'après elle revient là-dessus Et c'est assez bien fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une... Enfin, c'est quelqu'un qui est très politisé déjà à la base. Et ça va jalonner tout son parcours de militante. Va en fait être là un peu présent tout le temps, même dans son délire, parce que c'est au moment où, en fait, je crois que c'est en 2000, en 2001, ou je sais plus exactement, que Jean-Marie Le Pen était passé au deuxième tour, enfin au premier
2002.
Tour, deuxième tour, je sais plus, en 2002, voilà. Elle en parle dans le livre. À ce moment-là, voilà, il y a des grosses manifs. Et donc, à l'intérieur de son délire de persécution et en même temps d'être un nouveau messie, elle parle énormément de ça, en fait. D'essayer de trouver une solution pour déjouer le fascisme en répandant l'amour sur terre. Donc elle va dans la rue, elle parle à des gens, enfin voilà. Et donc elle est rattrapée un peu par sa famille tout le temps, ses parents, ses amis qui essaient de faire quelque chose pour elle. Elle rappelle d'ailleurs à la fin aussi de manière assez juste que elle est une femme blanche privilégiée, que disons que la problématique, la violence qu'elle a le plus vécu, c'est qu'elle a été surexposée aux violences sexuelles, notamment dans ses phases de délire. Et il y a des moments assez durs, d'ailleurs, moi j'ai trouvé ça difficile à lire, en tout cas, certains passages, même si c'est raconté très légèrement, parce que c'est dans son journal de délire, donc certains abus qu'elle a pu subir. Mais que, pour le reste, elle a été quand même très épaulée, elle a pas vécu, même dans son parcours de soins, qu'elle critique, hein, quand même, parce qu'elle s'est aussi mobilisée avec d'autres personnes qui avaient vécu les mêmes choses qu'elle, contre la psychiatrisation, ou certaines formes de psychiatrisation. En tout cas, elle dit quand même que dans son parcours de soins, elle a pas vécu de violence, de discrimination particulière, elle tient à le rappeler, ce qui est pas le cas de tout le monde. Et que voilà, elle a pu être toujours récupérée un peu in extremis par son entourage, qui a été aussi des personnes qui étaient déjà politisées, militantes, et qui se questionnaient déjà sur ces questions-là, et qui l'ont pas laissé tomber, en fait. Ou en tout cas, qui ont continué à s'interroger. Voilà.
Ah, ça a l'air top. Et on vient de parcourir le livre, là, avec Lou. Et aussi, il est beau à voir. Enfin,
oui.
On n'est pas juste dans une édition classique, en fait. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a du manuscrit, il y a du typographié, plusieurs types de typographie, enfin, il y a des images, il y a plein de choses.
En fait, elle faisait de la photo aussi, pas mal, et elle en parle. Donc il y a des extraits, des photos qui sont toujours un peu floues, d'ailleurs. Et elle dessinait, donc c'est une sorte de dessin qu'elle disait un peu messianique, où on lui parlait en même temps de son grand devoir sur Terre, de sauver l'humanité du fascisme et du Front National, enfin voilà, tout ça. Et donc elle, dans ce trip-là, elle dessinait beaucoup. Et avec une amie, en fait, qui s'appelle, je l'ai noté d'ailleurs quand même, Cécile K, qui a fait toute la maquette du livre, elles ont essayé de rester au plus près des journaux de base, tout en faisant que ça soit compréhensible et que ce soit pas juste illisible, à lire. Et en intégrant aussi des dessins, donc il y a vraiment quelqu'un qui a travaillé avec elle là-dessus. Et c'est vraiment un bel objet, effectivement.
Et du coup, la personne, elle revient sur sa vie 20 ans avant, alors.
Oui, c'est ça.
Tout se passe en 2002, 2003, 2004.
En fait, ça dure 10 ans.
Ça dure 10 ans.
En gros, ça commence en 2000. Et ensuite, c'est vraiment pour sortir de son état psychotique, qui est un peu tout le temps présent, à différents degrés. Elle a 3 bouffées délirantes aiguës, plusieurs hospitalisations, elle fait des fugues, elle se barre avec des... elle revient, elle travaille aussi beaucoup dans la ferme de ses parents, à un moment donné, ça l'aide pas mal. Elle est aussi un peu de toutes les manifs, Et donc dans tout ça, elle doit négocier sa vie avec ces voix qui lui parlent, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit pas c'est bien ou mal, c'est vrai ou faux. Enfin, il y a vraiment un truc de accepter ce moment qui lui est arrivé, et qu'en fait, à l'intérieur de ces moments-là, elle a devenu des moments de grande joie aussi. Enfin, et pas juste c'est horrible, elle souffre, elle est folle, elle est rejetée. Non, elle a aussi ça a été un foisonnement d'idées, de plein, enfin une sorte de terreau, quoi, assez fertile pour plein de choses. Même si les voix qui lui parlent sont parfois des sortes d'oracles, et en même temps parfois l'insultent. Et elle dit qu'il y a des personnes qui vivent ça et qui ont juste des voix qui les insultent, donc elle ça n'a pas été que ça. Elle a aussi une grosse période de érotomanie pour un type qui revient tout le temps dans tous ses écrits, persuadée qu'il est amoureux d'elle, tout ça. Mais il y a de l'humour, en fait. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même des trucs très drôles, parce que évidemment elle fume beaucoup de pétards, et puis ça joue, hein. Dès qu'elle fume, elle repart, elle entend des voix, et elle le sait en fait d'une certaine manière. À des moments, elle fume c'est pas qu'elle cherche forcément ça, mais elle sait que ça va arriver, quoi. Donc il y a un peu un truc comme ça. Donc elle parle du dieu Rasta. Enfin vraiment, il y a quelque chose d'assez, je sais pas.
Ça, je viens de voir sur une page que le premier dieu qui lui a parlé, c'est Jah.
Voilà, c'est ça. Et elle en parle tout du long.
Et que sa mission, c'était de mettre l'anarchie sur Terre.
Exactement.
Du coup, c'est assez cool quand même. Comme...
Oui.
Allez, je dis pas, c'est chouette de vivre ça du tout. Mais je dis juste que son délire, elle, il est vraiment issu du milieu squat militant et tout ça. Et que,
complètement.
Que,
ouais.
Du coup, c'est assez cool, quoi.
Mais oui, moi je trouve que, enfin, en tout cas, il y a pas de jugement moral même sur ce qu'elle a vécu elle-même. Enfin, il y a, et puis surtout, il y a une vraie mobilisation. Enfin, parce que je veux juste, si on a le temps, je vais lire un petit passage à la fin. Bon, je vais pas lire forcément les passages qui sont de l'ordre du délire parce que je pense qu'il faut les lire soi-même. Enfin, c'est pas, sinon ça va être incompréhensible hors contexte comme ça. Par contre, à la fin, où on sent hein, vraiment que le texte, là, on est en 2015, est vraiment de plus en plus lisible. Que ça y est, elle se mobilise avec d'autres personnes voilà, pour parler de psychiatrisation et puis pour parler de leur vécu, parce qu'en fait avec qui, comme pour tout hein, la non-mixité des fois c'est très bien aussi juste pour pouvoir parler de son vécu avec des personnes qui peuvent comprendre et puis aussi voilà, être ému mais aussi rire avec ça le un peu sortir de du truc grave tout le temps, que c'est grave et tout le monde a peur enfin voilà. Je vais tousser un peu, donc... voilà, désolée. Et donc, à la fin, donc en 2015, là, elle écrit... voilà, elle commence à se mobiliser, en fait, avec des groupes de parole et puis des groupes militants autour de ces questions de psychiatrisation. Et voilà. À Toulouse, le groupe s'agrandit et on organise régulièrement des ateliers de discussion en petits et grands groupes. On anime des projections débat, on compile de la doc pour des infokiosques. On est sollicité pour soutenir des gens qui dégoupillent dans leur collectif. On tente d'élaborer un annuaire des soignants et des soignantes recommandables. On s'associe à un collectif de santé communautaire transpédéguine meuf pour creuser ces questions. En 2013, on découvre le théâtre de l'opprimé et c'est l'occasion encore une fois de se raconter nos histoires, nos chagrins et nos révoltes et d'aller les partager avec des inconnus. C'est grâce à cette mise en commun de nos vécus et à la politisation des enjeux dont la folie est porteuse, grâce à cet enthousiasme à penser ensemble le formidable levier qu'elle incarne pour renverser le système, que j'ai pu trouver ma place et dans le milieu militant, c'était pas gagné au départ, et dans le monde, je crois que c'était l'enjeu de ma vingtaine. Et donner du sens à mon expérience du délire pour garder vivace, tant bien que mal, le foisonnement de ces années. Petit à petit, dans la sphère publique, la question des droits des personnes psychiatrisées gagne en légitimité. D'autres termes et enjeux occupent le débat. Neurodivergence, intersectionnalité, rétablissement, stress post-traumatique, psychophobie, etc. D'autres réseaux virtuels ou non émergent. Quel bonheur de savoir que les entendeurs de voix s'organisent en dehors de la psychiatrie. Ça bouge beaucoup, mais en face, le rappel à la norme sociale, économique, politique, la réhabilitation du contrôle et de la contrainte dans le soin, le champ sournoisement gagné par les neurosciences et leur modélisation de l'existence humaine, la marchandisation du système de santé, la manipulation du fantasme du fou dangereux, le cachetonnage massif des récalcitrantes, etc., sont autant d'assauts contre nos tentatives d'émancipation. Alors quand le désespoir me lèche les mollets, je voudrais pouvoir hurler « Messie de tous les pays, unissons-nous ».
Ça a l'air trop cool, mais ça, ça me fait penser que dans le milieu militant, ça, c'est vrai que ça a beaucoup bougé, c'est dans les 20 dernières années sur les questions psychiatriques, et je pense notamment à cette brochure qui s'appelait « Sans remède », qui a été, je pense, super importante pour sensibiliser les personnes neurotypiques, de la situation des personnes neuroatypiques, et notamment des personnes psychiatrisées. Et c'était une brochure qu'on trouvait dans beaucoup d'infokiosques sur internet et en physique et en France, en français. Et voilà, et typiquement qui parlait de ça, quoi, de personnes qui ont pu trouver communauté grâce à cette brochure sans passer par l'hôpital psychiatrique ou qui avaient vécu l'hôpital psychiatrique, bref. Voilà, merci.
Avec plaisir. Non, mais moi je connaissais pas cette brochure en tout cas.
Sans remède, ouais, mais elle existe plus, je pense. C'était, ben justement, moi j'ai connu ça vers 2015. Et tout ça. Il y a un problème avec le micro, Luce?
Non, ça va, j'essaie de faire des choses.
Bah, t'en entends toi et ces micros, ils sont hyper sensibles.
Bon, j'arrête.
On va passer une chanson, tu pourras faire des choses pendant la chanson. La chanson s'appelle Convulsion et le groupe s'appelle Sexual Purity.
Oh. Chronique mutante, l'émission en rose et noir de Radio Panique.
Je me suis trompée de jingle, tiens. Et parce que on va faire la revue de presse. Et hop, j'arrive pas à le voir. Bon, c'est pas grave. Alors, la Grèce a dit oui jeudi au mariage homosexuel et à l'adoption d'enfants par des couples de même sexe.
Hey.
Une réforme sociétale majeure portée par la majorité conservatrice malgré l'opposition farouche de l'influente église orthodoxe. Une fois la loi promulguée, ce pays méditerranéen prédomine encore un modèle de famille traditionnel, va devenir le 37e pays dans le monde, le 17e pays de l'UE et le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser l'adoption pour des parents de même sexe. La justice hongroise a annulé pour vice de forme l'amende infligée à une librairie qui avait vendu sans l'emballer le roman graphique Heartstopper, racontant un amour naissant entre deux lycéens. On vous avait parlé avec Adrien de la série Heartstopper, qui est une adaptation en fait de ce roman.
Trop bien la BD.
J'ai pas lu la BD moi.
En fait, c'est pas un roman, c'est une BD mais qui a un format roman.
Ouais, roman graphique.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais. Et ben voilà. Alors l'enquête a déterminé que les livres de l'auteur britannique Alice Osman, bien que dépeignant l'homosexualité, étaient proposés dans le rayon jeunesse sans être protégés par un emballage hermétique, avait alors expliqué le gouvernement. Une décision justifiée par sa volonté de protéger les enfants en vertu d'une loi homophobe et transphobe datant de 2021. Selon ce texte, il n'est plus possible d'évoquer auprès des mineurs le changement de sexe et l'homosexualité. Le cinéma est aussi concerné, à l'instar des films X, de simples comédies romantiques ne sont plus diffusées à l'heure de grande écoute parce qu'elles évoquent l'homosexualité, et des musées ont aussi restreint l'accès à certaines expositions. En Pologne, je vais pas savoir dire ton nom, mec. Wojciech Cielak, je suis vraiment désolée. Présentateur de la chaîne TVP Info a demandé pardon en direct au LGBT+ au nom de sa chaîne pour avoir relayé pendant des années la haine anti-LGBT du parti PiS, le parti qui était au pouvoir jusqu'aux élections de 2023. Il a dit « LGBT+ ne désigne pas une idéologie, mais des personnes avec des noms, des visages, des familles, des amis. Tous ces gens devraient entendre le mot pardon. Je m'excuse. » Franchement. Ça fait du bien.
C'est rare, hein.
Ouais, c'est rare, ça fait du bien. En France, Aurore Berger, ministre de l'Égalité, va passer au crible toutes les associations féministes pour voir comment elles ont communiqué sur le 7 octobre et couper les financements de celles qui seraient ambiguës. Va te faire foutre, Aurore. En Angleterre, deux adolescents de 16 ans, là c'est plus triste et je vais prendre plus de temps pour ça, ont été condamnés vendredi 2 février à la prison à perpétuité. Avec des peines de sûreté de 20 et 22 ans par la justice britannique pour le meurtre à coups de couteau de la jeune transgenre Brianna Gay, on vous en avait déjà parlé à l'époque. Le meurtre de l'adolescente de 16 ans en février l'année dernière avait suscité une vive émotion au Royaume-Uni. À la mesure du choc éprouvé, le tribunal de Manchester a pris la décision exceptionnelle de révéler les noms de ces deux mineurs, Scarlett Jenkinson et Ellie Radcliffe, décrits lors de l'enquête comme étant fascinés par la violence, la torture et la mort, avec une véritable soif de tuer. Les deux adolescents avaient poignardé Brianna Gay une trentaine de fois, la tête au cou, à la poitrine, au dos, avec un couteau de chasse. Pendant le procès qui a duré 4 semaines en décembre, Scarlett Jenkinson et Eddie Radcliffe se sont mutuellement renvoyés la responsabilité du meurtre. Ils avaient finalement été reconnus coupables tous les deux en décembre sans que le verdict ne suscite de réaction de leur part. Et quelques jours plus tard, Scarlett Jenkinson, que Brianna Gay considérait comme son amie, a reconnu pour la première fois auprès d'un psychiatre l'avoir poignardée. Elle a fait ça savoir à la procureure Dina Heer. La jeune fille de 16 ans a ainsi avoué avoir arraché le couteau des mains d'Eddie, qui ne connaissait pas la victime avant le meurtre, et portait la majorité des coups, se disant satisfaite et excitée par ce qu'elle faisait. Avant de passer à l'acte, ces jeunes avaient planifié le meurtre de l'adolescente pendant des semaines en s'envoyant des dizaines de SMS. L'accusé avait aussi transmis à son co-accusé la photo d'une note manuscrite sur laquelle était écrite « Samedi 11 février 2023, victime Brianna Gay ». Détaillant chaque étape par lesquelles il comptait s'y prendre pour la tuer. Si certains messages d'Eddie Radcliffe comprennent des commentaires transphobes à l'encontre de Brianna, la motivation du passage à l'acte de Scarlett Jenkinson était le désir de tuer, a souligné la juge. Selon l'enquête, Scarlett Jenkinson, qui semblait être à première vue une enfant normale, issue d'une famille normale, était fascinée par les tueurs en série, les vidéos de torture et obsédée par Brianna. Et je ne crois pas qu'une personne aussi perturbée et obsédée par le meurtre, la torture, puisse un jour être réhabilitée, a souligné la mère de la victime. Insistant sur le fait que les adolescents n'avaient montré aucun remords pendant l'audience. L'enquête a fait apparaître que les deux accusés souffraient entre autres de troubles autistiques, et Eddie Radcliffe a cessé de parler. Et les accusés, qui avaient 15 ans au moment des faits, tenaient une kill list avec les noms de d'autres victimes potentielles. Il s'agit d'un des cas les plus perturbants que j'ai eu à traiter, a dit la juge. Donc on est vraiment dans du lourd là. Hein. C'est... Allez.
Des serial killers.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, sauf que c'est très rare que ce soit une femme. Et je crois que c'est ça aussi là qui est d'autant plus choquant, c'est qu'on a très peu d'exemples de femmes cis, genre jeunes comme ça, qui ont des kill list et qui tuent des gens, et elles faisaient une obsession dessus. Enfin, ouais, c'est du lourd, hein. En Belgique, des mouvements de révolte ont actuellement lieu dans deux centres fermés de la zone de Bruxelles. Une quinzaine de personnes détenues au Caricole et au Temps au 127 bis ont lancé des grèves de la faim pour protester contre les violences qu'elles subissent. Une trentaine de personnes ont été montrer leur soutien mardi au soir devant les centres. Au centre du Caricole, les détenus se sont mis en grève suite au tabassage d'un de leurs co-détenus lors d'une tentative d'expulsion. Cette personne est revenue de l'aéroport avec une main cassée et des chaussures trouées. Les grévistes dénoncent cet acte de violence et de manière générale leurs conditions de détention. Et elles ont sorti des revendications et exigent la fin des violences lors des expulsions, un meilleur suivi juridique et un accès digne à la santé. Comme d'habitude, l'Office des étrangers s'en lave les mains, nie les violences commises et minimise les mouvements de protestation. Alors que plusieurs personnes sont décédées récemment dans les centres fermés, l'Office maintient et défend sa ligne politique honteuse. Ces mouvements de révolte nous rappellent que les frontières tuent et enferment et qu'on ne peut rien attendre de l'État belge. Et donc en effet, l'année dernière, plusieurs personnes sont mortes, parfois dans des circonstances très floues, en centres fermés.
Hier aussi, il y a eu à l'ULB, il y a des gens qui sont...
À ULB, hier, il y a eu une expulsion hyper musclée, commandée par Philippe Kloss et le recteur de l'ULB.
Rectrice.
La rectrice de l'ULB. Et les images sont effroyables, quoi. En fait, c'est des choses qui font toujours, mais c'est vrai que maintenant, on s'est filmé. Et on les voit tirer des gens, expulsés de manière super violente, en fait.
Puis maintenant, on ne peut plus faire comme si on ne voyait pas les images. Enfin, ça circule tellement rapidement.
Ouais. Et ouais, c'est vraiment la honte. Bon, Philippe Kloss, ça nous étonne pas de toute manière, mais voilà, pour l'ULB qui se dit une université humaniste, en fait, c'est honteux. Mais c'est pas la première sortie de l'ULB, hein, de toute manière.
T'as pas lu l'agenda?
Non, l'agenda, c'est juste un concert, on pourra en parler après. On va écouter Coucou Chloé, qu'on va bientôt aller voir en concert, le 29. Et avec Wiz.
Let it go, let it go, let it go. Let it go, let it go. Une émission Rally, Rally Cool.
De retour sur les ondes de Radio Panique, vous écoutez Chronique Mutante et vous êtes quelqu'un de bien. Et maintenant, on va parler culture, c'est ça?
Ouais. On va parler culture parce que du coup, je suis allée. Du coup, ce mois-ci, c'était le mois Aldous Carpec. J'y suis allée deux fois pour voir deux spectacles qui étaient complètement différents l'un de l'autre, mais qui véhiculaient des idéaux et des messages qui se ressemblaient un petit peu. Donc du coup, dans un des spectacles, on avait une espèce de troupe de gens qui gueulaient, criaient, étaient à poil, se complaignaient sur les institutions, parler de faire corps en tant que personne, mais en même temps ils reproduisaient des hiérarchies de pouvoir entre eux, mais en même temps ils dénonçaient ces hiérarchies, et en même temps ça dénonçait le système, et en même temps ça dénonçait, enfin c'était un très grand show, très plein de grandes paroles et de grands mots et de grands idéaux, et qui, au fur et à mesure, avec un décor très simple, qui du coup se faisait détruire direct deux minutes, tu rentres dans la salle, le décor il est déjà détruit presque. Et du coup, ça, c'était une espèce de satire, soap opera, grande coup de gueule sur ce qu'est les gens dans les institutions, les gens qui sont DIY, qui sont entrepreneurieux, qui veulent s'en sortir comme ils peuvent. Donc du coup, ça c'était un, c'était ça durait 90 minutes, il y avait une drag queen au milieu de tout ça, il y avait un cheval au milieu de la scène, il y avait une bataille navale à la fin, les gens ils ont fini tous à poil, enfin il y avait une espèce de grande peinture qui peignait au fond, des questions philosophiques sur ce que c'est la dramaturgie, ce que c'est l'institution, genre qui il faut écouter le plus, si le dramaturge ou l'institution, ben bref, et des relevés des questions de discrimination par rapport à les quotas de genre, les quotas de ethnicité, la racialisation des gens, ben bref, et c'était très, c'était un spectacle qui donnait beaucoup d'énergie et beaucoup de soi pour quelque chose qui était important à dire, mais au final t'étais en mode ah waouh, c'est, on va enfin ce lieu il produit vraiment ça quoi, du coup j'étais en mode ouais, choquée, mais en même temps je me dis de toutes les choses que je vois en général, c'est le seul truc qui m'a percuté, que je me suis dit ah ça change un peu la donne de tout ce que je vois, donc du coup j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et ensuite,
est-ce que tu peux dire ce que c'était?
Ah non, je vais te dire l'autre.
Ah ok, pardon.
Et du coup, après, en parallèle de ça, je suis allée une semaine plus tard voir un autre spectacle que j'allais pas du tout aller voir, mais on m'a invitée. Et du coup, c'était un spectacle qui s'appelle Article 13, et qui parle sur l'article 13 des droits des hommes, de la Constitution des droits des hommes, qui est cet article qui dit « Tout homme est libre de circuler partout dans le monde, il n'y a pas de frontières, on est censé être libre et libre de retourner à son pays, d'aller dans son pays comme on le veut. » Et là, tu rentres dans la salle, il y a une espèce d'énorme décor, hyper pompeux, hyper somptueux, avec de la pelouse artificielle, avec une statue, avec des buissons, avec énormément de fumée. Enfin, la salle de ce spectacle l'avait transformée d'une semaine à l'autre avec cet énorme décor qui était intact et que les seuls changements qu'il y a eu, c'était genre un buisson qui tombe. Oh, même pas cassé, il tombe. Et entre tout ça, t'as une seule personne sur scène qui danse, parce que c'est une... Du coup, ça, c'était plutôt une pièce de danse, chorégraphiée, un sur scène, avec une espèce de personnage, on voit pas sa couleur de peau, on voit pas son visage, on voit rien du tout, on voit juste que c'est une espèce de personne mouche, avec une espèce de tête de poulet, qui se balade, fait des attempts to... casser la statue qui est au milieu, qui du coup a marqué article 13. Et ensuite, une fois que la statue elle est cassée, il y a une énorme statue encore plus grande avec des énormes pieds qui faisaient la taille de mon appart, qui tombait du ciel et qui, du coup, la personne était censée recasser. Donc du coup, c'était une espèce de essai de détruire le système qui encore revient une deuxième fois pour être encore plus difficile de détruire. Sauf que quand tu es là-bas, t'es hyper. La musique, elle était hyper importante dans ce spectacle parce que du coup, ça te balançait des sons hyper chiants, genre un truc pour couper l'herbe. Comment ça s'appelle ?
Une tondeuse,
mais à balles. T'avais mal aux oreilles. Après, t'avais encore plus de bruit. Après, t'avais de la musique classique au milieu de tout ça. Enfin bref, le. Je trouvais que c'était beaucoup trop pompeux pour véhiculer cette idée, véhiculer l'idée que on est libre de circuler où on veut. À la fin, avec un petit panneau qui disait non à la loi d'immigration en France, parce que du coup, il faut dire que les deux spectacles de quels je parle, donc du coup le premier c'était German Stadt Theater, qui est fait par Michel Goldberg et Rosie Sommers, qui eux sont ils travaillent en Belgique, pas forcément belges, mais ils travaillent en Belgique et du coup ils ont fait en sorte de créer ce spectacle et de valoriser le travail qu'ils font et qu'ils ont fait pendant plusieurs années dans la culture de Bruxelles, à créer ces événements de essais de performance ou essais de renouveler un esprit de performance nouveau. Et après t'as cette meuf Pia Ménard qui a fait du coup l'article 13, qui est une Nantaise, meuf blanche, qui du coup est venue, a fait tourner son spectacle ici en France, j'imagine en Belgique, et qui du coup montre cette pièce qui parle sur la loi de migration, mais qui, quand tu les mets l'un à côté de l'autre, tous les deux ils ont des attitudes complètement différentes par laquelle utiliser ou se réapproprier des institutions. Parce que tous les deux sont en train de critiquer les institutions, sauf que l'un, il est en train d'embaucher, je ne sais pas, 12, 9, un groupe de 9 personnes pour faire du travail et créer une pièce de théâtre qui est quand même tirée par les cheveux, mais qui crée du travail avec un décor qui est hyper simple, qui est cassé en 2 secondes et qui peut être recollé en 2 secondes, en valorisant le travail des techniciens, parce que les techniciens ils passaient dans la pièce et ils faisaient aussi partie du spectacle. Et t'as du coup de l'autre côté une espèce de spectacle hyper pompeux dont mise en scène avec une énorme déco, une seule personne sur scène, mais avec moi je pense que ces pieds ils coûtent de l'argent quoi à faire.
Quels pieds ?
Les pieds de la pièce de Pia Ménard où il y a les deux pieds qui tombent en marbre, je sais pas, en plâtre, enfin bref. Qui du coup ils sont pas cassés, tu vois, mais tu vois il y a un truc de, il y a certaines choses qu'on casse, il y a certaines choses que l'on casse pas, mais c'est cette prétention de se dire OK, je vais utiliser tout mon argent et toute ma production qui va aller dans la déco. Juste pour véhiculer un message que la moitié de la salle n'a pas compris.
Ouais, ou que tout le monde est déjà d'accord. Aussi.
Aussi.
Tu vois, qui en fait, Je sais pas si on a besoin qu'une chorégraphe ou une metteuse en scène de danse, chorégraphe, nous explique que l'article 13 n'est pas respecté, ou je sais pas trop ce que c'est l'article 13, mais que c'est pas respecté, je veux dire, tout le monde le sait, tout le monde est d'accord. Enfin, des fois il y a un militantisme très bourgeois comme ça, où on va s'emparer d'un sujet qui met quasiment tout le monde d'accord dans le milieu dans lequel elle est, et puis hop, on fait un gros spectacle et on fait plein d'argent, enfin on fait de l'argent avec. C'est vrai que ça peut être un peu questionnant, quoi.
Ouais, mais après la salle n'était même pas remplie à ras-bord.
Ouais, ça a pas trop marché. Et le spectacle de Micha, c'était full.
Et le spectacle de Micha, il a été complet deux soirs, tu vois. Donc, quand tu fais la comparaison des deux, tu te rends compte à quel point, genre, ce qui est entre guillemets le militantisme, qui peut être subliminal dans ce que tu fais en tant que travailleur d'artiste, ou l'engagement politique que tu peux avoir en tant qu'engagement artiste, il passe par tellement de choses, et il peut être tellement représentatif dans la façon dans laquelle tu mets en scène, ou qu'est-ce que tu choisis de mettre en scène, ou comment tu fais les choses que tu présentes. Enfin, moi j'étais hyper déçue, surtout qu'on m'avait vendu ce spectacle, celui de Pierre Ménard, comme c'était un spectacle de, entre guillemets, de gauche.
Ouais.
Donc du coup, j'étais en mode, I'm super déçue.
Oui, c'est un de gauche, mais sans économie de moyens. Et comme tu disais, en faisant travailler assez peu de personnes par rapport à l'autre spectacle que tu as vu. Ouais.
Ouais.
Parce qu'il y a le message, entre guillemets, mais il y a aussi la manière dont on fait, on construit le spectacle, et là, en faisant le spectacle, tu peux déjà détruire un peu le système. Bah, et faire ce choix-là, en fait.
Que des mecs blancs qui faisaient son spectacle. Enfin, peut-être des... Enfin, elle, c'est une meuf trans, hein, mais... Enfin, c'est les choix, tu vois, les faux choix que tu fais quand tu choisis de faire un spectacle. C'est... Enfin... C'est des choses qu'il faut en prendre en compte. Je sais pas. Moi, ça m'a révolté. Ces deux trucs. Les deux. En même temps. J'étais là en mode, ah! Je suis pas d'accord, mais en même temps, ça dit tellement sur comment on fait les choses dans le monde de la culture. Enfin, bref.
Pause musicale. J'ai découvert un groupe suédois, qui s'appelle LM308. On va écouter leur titre White Christ, qui vient de sortir. Alors, visiblement, le morceau se lance pas. Ça se lance pas. Ok. Ah. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, bon, ben voilà, on va pas écouter White Christ. Hein. Je vais vous le faire écouter une autre fois. C'est dommage, hein, parce que c'est vachement bien. Ben, du coup, deux secondes.
Sinon, ce soir, je vais aller voir un autre spectacle qui s'appelle Friction à la raffinerie. Mais ça, c'est déjà sold out.
Et c'est quoi, Friction?
Je sais pas.
Tu sais pas?
Non.
Ok. Donc là, on va écouter un autre groupe, un groupe canadien qui s'appelle Desperta avec Mundo Oscuro.
We'll be right back.
Juste un petit point agenda avant de te laisser la parole, Margot,
oui,
pour parler bouquins. Je voulais vous annoncer que jeudi prochain, à Super Fourchette, il y a une soirée avec deux groupes queer punk, queer post-punk. Il y a Clear Channel qui vient des USA. Ah, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas pensé à... Si y a une... On a le temps, on écoutera. Ah, mais non, on n'arrive pas à écouter de chansons sur Internet. Bref, qui est un groupe de Washington et qui, voilà, c'est un groupe DIY punk queer. Et à nos amis de Transport Public, un groupe bruxellois de punk non-binaire, deux personnes trans non-binaires qui font du punk, basse et batterie, leur colère envers, je lis leur description, leur colère envers le patriarcat, du comique et du politique, de la douceur, de la rage et de l'amour, de la queerness, de la tendresse, du punk, de la transpiration, du bruit, du punk, du feu et une goutte de miel, il y a plein de punk plein de fois. Et donc ça, c'est à Super Fourchette, c'est le jeudi 22, je sais plus à quelle heure c'est. Donc les concerts sont assez chers à Super Fourchette parce que c'est 10€, c'est... c'est cher, quoi. Donc du coup, Clear Channel, vous pouvez pas les voir ailleurs, mais par contre, Transport Public, vous pouvez les voir le lundi précédent au Chaff avec Luca, qui est en plus un truc de pop, à rien à voir. Et voilà, si vous voulez les voir gratuitement, c'est aussi possible le 19 au Chaff. Et samedi prochain, le 24 février à la Poissonnerie, il y a une soirée punk assez classique avec plusieurs groupes, mais j'ai oublié la plupart des groupes. Je me souviens qu'il y a un groupe de France qui s'appelle King Kong Meuf et qui est un groupe de Bruxelles qui s'appelle Foutu. Voilà. Ah, c'est aussi une soirée un peu chère, genre 8 balles, un truc comme ça. Il y a plein de groupes par contre. Voilà. À vous, Margot.
Merci. Bon, moi j'avais juste pris un autre livre en me disant peut-être qu'on aurait du temps. On a un petit peu de temps, ça va. Ça, c'est vraiment un livre que j'ai lu deux fois, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et... ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas été émue comme ça par un livre. Enfin, je ressens plein de trucs en lisant, mais là, c'était vraiment de l'émotion, ouais, qui venait de je ne sais pas où, mais ouais, vraiment très, très beau, un très beau texte. Donc, Juliette Rousseau. C'est une autrice, éditrice, traductrice, militante féministe et écolo, qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Éditer en féministe. Elle est autrice aussi de Lutter ensemble, qui rapporte la parole de plusieurs collectifs de lutte, différents collectifs. Donc, elle est, voilà, il y a peut-être des personnes qui ont déjà vu passer son nom par ce livre-là, qui est aussi édité chez Cambourakis, comme celui-ci. Et là, elle sort de, voilà, de son habitude un peu, voilà, de ce que j'avais déjà lu d'elle, en tout cas. Et puis vu, parce qu'elle est aussi sur enfin, Instagram, elle voilà, milite un peu comme ça, même si c'est pas son médium numéro un. Et La vie têtue, c'est vraiment un texte d'autofiction, avec de la poésie, du roman. Enfin, il y a vraiment différentes manières d'écrire dedans. C'est très court, ça se lit vraiment... on peut prendre 2-3 heures et le lire, ça se lit d'un coup. Et c'est... une sorte de récit où elle s'adresse en fait à sa sœur qui est morte des années auparavant, à 33 ans d'une leucémie, et qui avait été anorexique, boulimique toute sa vie. Et en fait, elle s'adresse à sa sœur et elle parle de cette espèce de deuil impossible et de cette injonction à devoir faire, on a un deuil à faire, surtout dans les morts violentes comme ça, à devoir passer à autre chose à un moment donné, quoi. Alors qu'en fait, elle dit, moi, je vis avec cette morte, et c'est comme ça, quoi. Et c'est pas forcément mal. D'ailleurs, c'est pas toujours triste. Et donc, elle parle à sa sœur. Donc, c'est vraiment tout un livre qui est en tue. Et elle, en parlant à sa sœur, elle revient sur leur famille et sur leur vie de sœur. Et sur, elle retrace un peu la vie des femmes de sa famille, de leur mère, de leur grand-mère. Et c'est vraiment une sorte de archéologie de la violence intrafamiliale. Et c'est vraiment hyper émouvant, hyper touchant, et ça donne voix en fait à des femmes qui ont juste jamais eu voix au chapitre pour à peu près rien, des femmes qui parfois ont aussi été violentes avec leurs enfants qu'elles n'avaient pas toujours choisi d'avoir. Enfin voilà, donc ça parle de tout ça, ça parle de violences sexuelles dans l'enfance, de plein de sujets hyper deep, hyper durs, mais en le lisant, c'est pas juste ça. C'est il y a une forme d'espoir. Il y a de la légèreté des fois aussi, parce qu'elle parle aussi. Elle a une fille en fait. Elle parle de son enfant, et donc elle s'adresse aussi à elle. C'est vraiment une sorte de récit un peu choral où elle parle à plusieurs femmes de sa famille et à sa propre fille. Et en parallèle, on sent aussi toute sa veine, voilà, sa pensée écolo aussi derrière, qu'elle relie à sa lutte féministe et à toute cette douleur transgénérationnelle dont elle parle. Elle parle aussi de la douleur des campagnes. Elle vient d'une petite ville en Bretagne, enfin même un village. Et elle raconte cet endroit un peu dans les terres qui avait beaucoup de forêts quand elle était enfant et qui devient de plus en plus abîmée avec vraiment des grandes monocultures. Et elle parle en fait de tout ça en même temps imbriqué. Je sais pas trop, voilà, c'est un peu fouillis ce que je dis, mais voilà, moi ça m'a vraiment beaucoup touchée.
Non, c'est clair.
Voilà. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je vous dis vraiment, lisez-le, ça vaut la peine.
Yes, merci. On mettra les références avec le podcast. On se quitte en musique ?
Oui.
On va écouter Panthère Moderne avec Ask Yourself. Doucement vers la fin de cette émission, je voulais embrasser Poussin qui peut-être nous écoute. On t'a pas appelé parce que t'as vu, c'était chargé. Et vite, on passe l'antenne à l'œil carnivore. Bisous.
Ciao.
Une émission soutenue par la Fédération Schlagonie Bruxelles.